Nous voulons recevoir de toi la paix. Nous voulons recevoir de toi la joie. Nous voulons recevoir de toi le pardon. Nous voulons recevoir de toi la délivrance, la justice et l'amour du Père. Alléluia. Alléluia. Nous demandons à tous les vindicatifs et à tous les démons et à toute la puissance du diable de cette terre. Nous libérons la sagesse et la façon de faire de Dieu dans cette assemblée. Et nous proclamons la justice de Dieu maintenant dans le nom de Jésus. Que le ciel s'ouvre pour que nos vies soient impactées, affectées. Que le ciel s'ouvre pour que nos vies soient dynamisées, soient révolutionnées par ta parole. Que l'Esprit de Dieu descende pour que nos vies soient, alléluia, élevées dans une dimension de standard de Dieu. Béni soit ton nom, Père de gloire. Béni soit ton nom, Dieu Tout-Puissant. Te disons merci et te rendons grâce. Alléluia. Amen. Nous allons nous asseoir. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment. Alléluia. Amen, amen. Je suis profondément ému, profondément touché de voir ce que Dieu prévoit pour son peuple. Nous vivons une époque, une période qui est la période la plus bénie, la période la plus glorieuse, si au moins chacun de nous pouvait comprendre et saisir ce que Dieu est en train de faire. Nous allons chaque fois, chaque matin quand nous nous levons, nous allons lever nos mains, le bénir et le remercier. Ce que j'apprécie avec le Père est que tout un chacun ici est né selon une volonté. Dieu est déterminé en utilisant tous les moyens pour que vous et moi nous puissions comprendre et saisir sa pensée. Dieu est déterminé en utilisant tout ce qu'il faut pour que vous et moi nous puissions rentrer dans cette destinée. Il n'y a aucune chose, il n'y a aucun démon, aucune situation qui peut nous empêcher à pouvoir entrer dans cette dimension. Parce que ça, c'est la volonté de Dieu, la volonté du Père pour ses enfants. Et chaque fois quand je lis ma Bible, je me réjouis de savoir que, en réalité, je n'ai pas pu pouvoir investir le temps qu'il fallait pour que je puisse découvrir les trésors cachés de ma vie. Et bien aimé, je prophétise ce soir pour la vie de tout un chacun. Je crois sincèrement que tu ne seras plus la même personne. Pas parce que simplement tu n'es pas la même personne, parce que Dieu a un plan pour ta vie. Et en faisant cette étude, je suis rassuré que quel que soit là où tu te trouves, si tu continues à lui faire confiance, tu t'en sortiras. J'en suis pleinement persuadé. Et je suis tellement touché de voir la dimension de la révélation de la parole de Dieu que Dieu nous donne et dans laquelle tout un chacun rentre maintenant et actuellement. Laisse-moi te dire, frère et sœur, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, rien ne peut arrêter la volonté de Dieu. Rien. Les choses semblent un peu difficiles ou semblent anormales. C'est tout à fait normal. Parce que tu n'as pas encore saisi comment Dieu fonctionne. La Bible dit, mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées ainsi que mes voix. Mais avec la grâce de Dieu, petit à petit, Dieu te touchera. Petit à petit, Dieu se révélera à toi. Petit à petit, Dieu te fera comprendre qu'est-ce qu'il pense. Quand tu arriveras, tu vas t'en sortir. Et prends les années que ça prendra. Ça a pris des années pour Abraham de comprendre qu'il devait réellement livrer son fils Isaac. Ça a pris des années pour Jacob, ça a pris des années pour Joseph, pour qu'il réalise que la vision que Dieu lui avait donnée devait s'accomplir. Ça a pris des années pour Nelson Mandela. Ça a pris des années pour des personnes comme des Indira Gandhi. Ça a pris des années. Et quand la volonté de Dieu est exprimée, elle finit ça par ça accomplir. Donc, nous étudions le plan de Dieu pour notre vie. Dieu a un plan pour notre vie. Et ce plan est immuable, irrévocable, inchangeable. Ce plan est appelé à s'accomplir, quelles que soient les épreuves et les situations dans lesquelles nous sommes appelés à passer. Et là, nous avons commencé maintenant à pouvoir comprendre un domaine qui est très important, l'amour de Dieu. C'est un domaine très important et très profond où, trop souvent, nous, les prédicateurs, nous n'avons pas pu donner au peuple de Dieu la pensée de Dieu dans ces domaines. C'est l'un des fondements les plus profonds, les plus puissants. Tout enfant de Dieu doit apprendre de sa nouvelle naissance, d'apprendre ces domaines sur l'amour. Et quand nous n'arrivons pas à comprendre et apprendre ces domaines comme il se doit, nous passons à côté. Comme nous avons dit dimanche, nous avons vu que les diables attaquent. Les diables n'attaquent pas les dons spirituels. Parce qu'il sait que si il arrive de refroidir les dons spirituels, au moment où tu développes l'amour de Dieu, tes dons spirituels vont se manifester. Le diable ne va pas attaquer ton ministère. Parce qu'il sait que s'il attaque ton ministère, le ministère est détruit. Tant que tu as l'amour de Dieu, tu peux revenir. Le diable attaque les fondements. C'est comme si vous voulez détruire un arbre. Vous coupez ses branches. Mais ça ne vous sert à rien. Vous n'avez pas détruit l'arbre. Parce qu'en réalité, ce qui donne la vie à l'arbre, ce ne sont pas des branches, ce ne sont pas des feuilles, c'est quoi cela? Pour bien dire que l'arbre ne va plus exister, il faut aller à la racine. Et nous avons vu que l'amour, ce n'est pas la loi, c'est le fondement même sur lequel Dieu bâtit toutes choses. Et en étudiant, on a vu qu'il y avait trois sortes d'amour. Eros, qui a un rapport avec le corps, je suis en train de récapituler pour que tout le monde comprenne. Eros, pourquoi? Parce que quand l'homme a perdu la communion avec Dieu, la première chose qui a pris place, qui a commencé à agir, c'est le corps. Avec le corps, nous sommes en relation avec le monde naturel ou le monde physique. Notre âme nous fait connaître nous-mêmes. L'âme nous rend conscient de nous-mêmes. Notre esprit maintenant nous rend conscient de Dieu. Alors, trois parties. Maintenant, quand l'esprit de l'homme s'est déconnecté ou la communion a été brisée, l'homme ne pouvait plus. Quand on parle de la mort spirituelle, cela ne veut pas dire que l'esprit de l'homme n'existe plus. Simplement, l'esprit de l'homme existe, mais il n'est plus conscient de la présence de Dieu dans sa vie. Il a simplement perdu la conscience de Dieu. Parce que si l'esprit de l'homme n'existe plus, l'homme devient comme une bête. L'esprit de l'homme existe, mais cet esprit n'est plus conscient du ciel ou de Dieu. Cet esprit devient conscient de qui? Des choses du diable. Parce que c'est dans notre esprit que les diables rentrent en contact avec nous. Et ce que nous recevons dans notre esprit par rapport au diable, nous les manifestions dans notre corps par rapport à notre décision qui est dans l'âme. Donc, notre corps, Eros, touche notre corps parce que quand l'homme pêche, La chose qui prend maintenant la première place, c'est le corps. Et trop souvent, on confond l'amour éros, qui a un rapport avec la chair. Et quand on vient à l'église, n'ayant pas reçu la connaissance dans le domaine de l'amour, on fait aller tout d'abord l'amour éros. Et après éros, il y a l'amour filial ou philéo. C'est là où les Américains ont donné ce nom, Philadelphia. L'amour filial a un rapport avec les sentiments et ce qu'il y a, tout ce qui est un rapport avec les romantismes. Juste après ça, il y a maintenant l'amour de Dieu. Et la Bible nous a dit maintenant l'amour de Dieu occupe la première place. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Quand nous acceptons le Seigneur, la première chose que Dieu répand, c'est son amour dans notre cœur. J'ai expliqué ça dimanche dernier. Maintenant, l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur. Il faut que cet amour étant répandu dans le cœur puisse toucher quoi? Âme et corps. Non, c'est répandu dans l'esprit. Ça doit passer de l'esprit pour toucher l'âme et corps. Afin que nous puissions les manifester. Le diable, sachant que l'amour de Dieu, c'est Dieu lui-même, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il veut mettre des obstacles pour que cet amour ne puisse pas se répandre. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Quand il attaque l'église, le diable n'attaque pas le ministère tout d'abord. Le diable attaque le fondement. Vous allez vous rendre compte, quand vous venez dans le Seigneur, tout le monde est bien, tout le monde est beau, tout le monde est belle, vous aimez tout le monde. Mais à un certain moment, le diable va susciter une situation, un problème. Simplement, une incompréhension change la vision de la personne qui hier était votre héros ou était un exemple pour vous. Nous allons revenir dans Matthieu 24. On a parlé de ces chapitres, mais on n'a jamais fait attention sur ces points-là. La personne qui m'a beaucoup aidé dans ce domaine, c'est le prophète Wicks, qui a beaucoup attiré mon attention sur ces versets. On parle beaucoup des événements, on parle beaucoup de ce qui va se passer sur terre, mais on n'a jamais laissé notre attention être attirée par ces versets. Matthieu 24, c'est là qu'on s'était arrêté, je pense. Matthieu 24. Vous y êtes. On commence au verset 8. Tout cela ne sera que le commencement de douleur. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les à cause de mon. Ok. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront et haïront les uns aux autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup d'eux. Et parce que l'unité sera accrue, l'amour, c'est dans votre version, c'est écrit la charité. Je vous explique la charité en rapport avec chair. C'est éros. Mais là, ce n'est pas la charité, c'est l'amour agapé. L'amour du plus grand nombre, c'est. Regardez, avant qu'on puisse toucher le verset 14, j'aimerais attirer l'attention de tout le monde. Verset 9, alors vous serez livrés. Vous, c'est pluriel. Il parle de vous serez livrés. Donc, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de pousser, de nous pousser tous ensemble. Nous sommes un corps, il nous pousse, vous. On part tous ensemble dans un mouvement. On part tous ensemble. Dans une épreuve, on part tous ensemble dans une situation difficile. Tout le monde s'en va. Ok? Et il dit, l'on vous fera mourir. Tout le monde est dans le même lot. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. On voit ici, le diable commence à utiliser des armes qui nous oppressent naturellement, qui nous oppressent physiquement, qui nous oppressent émotionnellement. La haine, c'est au niveau des émotions. Il utilise ces choses, il nous oppresse, il utilise ses armes. Et il va, alors maintenant, aussi plusieurs feront quoi? Tout le monde va dans le lot, mais tout le monde ne veut pas sortir. Et tu dois être celui ou celle qui va s'en sortir. Il dit, plusieurs succomberont. Donc tout le monde, ici il parle pas. Jésus-Christ dans cette histoire, il ne s'adresse pas à la foule. Quand vous lisez les versets 1, vous allez vous rendre compte, il s'adresse à ses disciples en particulier, les 12 qui lui étaient restés. Il parle de la situation dans laquelle ils allaient vivre. Il dit, les diables vont venir avec une façon de faire pour vous presser. Pourquoi? Parce qu'il veut atteindre son objectif. Il veut atteindre la chose la plus importante dont vous n'avez jamais fait attention. Il vous presse. Il dit, la haine va se manifester. La haine ne se manifestera pas. Il ne parle pas aux personnes qui sont en dehors. Il parle aux personnes qui sont avec lui, qui sont dans l'église. Il marche avec lui. Et il dit quoi? Plusieurs s'y commeront et s'y trahiront. Ah. Il ne parle pas de la trahison en dehors de l'église. Il parle de la trahison parmi les plusieurs. Quand le diable met la pression, sans se rendre compte, la pression est tellement commence à agir dans nos sentiments, on commence à se trahir les uns les autres. Parce qu'il sait que si, comprenez bien, l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur. Maintenant, cet amour doit affecter notre âme jusqu'à ce que ça puisse se manifester à l'extérieur. Maintenant, le diable, la seule façon pour que l'amour ne se manifeste pas, il met une pression de l'extérieur à l'intérieur. Vous comprenez? Parce que l'amour doit se répandre du cœur jusqu'à l'extérieur. Mais maintenant, la seule façon pour lui de ne pas permettre, il fait quoi? Il prend de l'extérieur, il met une pression qui va rentrer à l'air pour arrêter que ça puisse se répandre. Il suscite des situations. Il suscite des épreuves. Il suscite toutes ces choses-là dans l'église. Il veut toucher nos émotions. Il veut toucher nos sentiments. Voilà pourquoi si vous ne faites pas la différence entre l'amour agapé, l'amour eros et l'amour philéo, vous bloquez ce que Dieu a mis à l'intérieur. Parce que ce que Dieu, l'amour agapé ne commence pas à l'extérieur. On va le voir tout à l'heure. Commence à l'intérieur. Donc, avant que l'amour agapé puisse toucher tes sentiments, il faut que tu sois d'accord avec ce qu'il a mis à l'intérieur. Ok? On continue avec moi. Et il dit, plusieurs se haïront les uns les autres. On voit même la haine va se manifester. La haine va se manifester parmi des fils et des filles de Dieu. Parmi de ceux, vous êtes jamais arrivé, vous entendez bien avec une sœur en Christ. Elle est née de nouveau. Le frère, il est né de nouveau. Vous aimez bien du jour au lendemain. Vous avez l'impression comme si vous ne l'avez jamais connu. Ça vous est jamais arrivé? Du jour au lendemain, vous avez quelque chose comme si. Vous dites, mais je rêve, ce n'était pas la personne. Non, c'est vraiment la personne qu'il fallait. Mais le diable a tellement mis la pression que vos émotions ont été touchées. Du fait que vous n'avez pas su faire la différence avec l'amour agapé, l'amour eros, l'amour philéo, vous avez pensé que la personne a changé. Non, la personne n'a pas changé. Une bonne nouvelle. Vous pensez connaître réellement la personne que vous connaissez. En réalité, vous ne les connaissez pas mieux que Dieu. Donc, si Dieu met quelqu'un à côté de vous, Dieu le connaît. Il sait la raison pour laquelle il l'a mis à côté de vous. Les jours où vous découvrez ce que la personne fait, ne pensez pas que Dieu l'a découvert ce jour-là même. Dieu, avant même que de le mettre à côté de vous, il savait qui était la personne. Il l'a quand même mis à côté de vous. Pourquoi l'a-t-il mis à côté de vous? Vous aurez la réponse tout à l'heure. Il l'a quand même mis à côté de vous. Dieu savait que dès le départ, Judas allait trahir Jésus. Mais il l'a quand même mis. Et il n'a pas mis n'importe où. Ok. Parce que c'est lui qui tenait toute la bourse. Donc c'est lui qui décidait où Jésus devait dormir, combien il fallait qu'il paye, quand est-ce qu'on devait nourrir les pauvres. C'est lui qui décidait tout. C'est lui qui payait toutes les factures. Judas est né dans une famille des experts comptables. Jésus-Christ n'a pas mis les gens parce qu'il fallait les mettre. Il a mis les gens selon ce qu'ils avaient aussi comme talent naturel. Judas était né, quand vous suivez la lignée de Judas, il faisait partie d'une famille des experts comptables. Parce qu'il pouvait déduire simplement au travers d'un vase d'albâtre, il pouvait lui-même savoir, vous savez les experts comptables, dès que vous les posez la question, ils vous donnent déjà des chiffres. Donc, il avait la facilité des chiffres sans même que vous puissiez faire l'expertise parce qu'il était expert. Tu as compris? Un expert n'a pas besoin d'expertise parce que lui-même, il est expertise. Vous comprenez? C'est un expert. Alors, quand on a amené le flacon d'albâtre, il a dit, avec tout ça là, on peut nourrir tel nombre. Il a déjà calculé les prix par rapport au prix, combien de personnes on peut nourrir par rapport au prix de vente. Il savait déjà, il savait, il était fort en ça. Dans la comptabilité, il n'y avait pas quelqu'un qui lui était égal à cette époque-là. Donc, il avait un poste, c'est comme si on met quelqu'un dans le ministère des finances et des budgets. On ne met pas n'importe qui, on met quelqu'un de confiance. Donc, quand Jésus-Christ l'a mis là, il avait confiance en lui. Mais il savait aussi que c'est lui qui pouvait le faire mal. Il l'a quand même mis là. Il y a une raison pour laquelle la personne qui vous fait mal est à côté de vous. Il y a une raison. Dieu n'est pas bête. Vous n'avez pas dit alléluia. C'est une bénédiction que Dieu mette cette personne à côté parce que à chaque fois quand votre nature naturelle veut, Dieu, le diable utilise la personne. Vous revenez à la vraie raison de la Bible. Hein? Okay. Ils ne sont pas d'accord avec moi, mais je continue quand même. Mais maintenant il dit, et parce que l'iniquité, il dit, plusieurs fois prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens, La séduction ne se passe pas au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme. On aime. Vous savez, trop souvent, ce qui me fait rire, quand les gens viennent à l'église, souvent ils viennent seuls. Et ils se sympathisent à l'église. Il y a des cercles qui se créent, des cercles de sœurs en question, bref. Et je vais vous dire, il y a une loi d'attirance. Ne vous en faites pas. S'il y a un homosexuel à l'église, une lesbienne à l'église, je vais vous expliquer la loi de l'attirance. Et ils n'ont pas besoin de se connaître. Ils vont s'attirer. Ils n'ont pas besoin de s'asseoir. Oui, ce sont des esprits, ça s'attire. Vous allez vous rendre compte que vous avez une chose. Si vous avez vécu une vie brisée dans votre enfance, même quand vous venez à l'église, vous allez vous rendre compte que les gens que vous allez attirer sont des gens qui ont vécu la même vie que vous. Faites attention. C'est très dangereux, vous n'allez pas vous en sortir. Parce que vous faites un cercle de personnes rejetées. Vous allez passer tout votre temps à parler de vos rejets. Vous n'allez jamais vous en sortir. Quand quelqu'un parle beaucoup, la personne attire toujours ceux qui parlent beaucoup. Étudiez bien vous allez vous rendre compte. Quand vous êtes fauché, vous attirez toujours les gens qui sont fauchés. Vous devez briser cet esprit. Vous devez changer les directions. Ok. C'est pas l'enseignement. Je vais enseigner ça un jour. Je vais enseigner. Vous allez vous rendre compte. Mais c'est un esprit. Et les gens ne savent pas. Quand tu viens à l'église, si tu vois que tu attires les mêmes personnes qui ont vécu la même vie que toi, ne dis pas que je vais les aider, ils vont m'aider. Dis, il y a un danger. Il faut que tu attires les gens. Il faut que tu attires les gens qui vont t'amener loin, qui vont te faire sortir de là. Dis carrément à ces personnes, écoutez-moi, moi je veux m'en sortir. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Un homosexuel peut être derrière, il y a un autre là. Ils ne se connaissent pas. L'église se termine. Il suffit qu'ils se regardent. C'est bon. Un autre exemple. Soyons honnêtes. Si vous êtes jamais arrivé à l'église, on est des chrétiens, je ne parle pas aux païens. Venez à l'église, vous regardez une sœur ou une sœur, votre cœur bat. Et sans faire exprès, au moment où vous attendez pas, il est où? Elle est devant vous. Elle vous regarde, vous regarde. Et vous n'avez rien à dire, il n'a rien à dire. Ça vous est jamais arrivé? Soyez honnête. Vous n'avez rien dit. Non, c'est sérieux. Bon, si vous n'êtes pas passé par là, moi je suis passé par là. Je ne vous parle pas des choses qui se sont passées dans le monde. Ça se passe dans l'église. Et vous êtes derrière, vous êtes devant, il vous regarde, ou vous lui regardez, vous regardez, vous sentez vraiment que non, il y a quelque chose. Vrai ou faux? C'est la loi de l'attirance. Alors ça se passe souvent avec par rapport à Eros et à Philéo. Si vous ne faites pas attention, vous tombez dans ces pièges en disant que c'est Dieu qui a dit. Vous comprenez? On avance, ok? Je veux vraiment que nous puissions comprendre comment s'en sortir de cette situation. Parce que beaucoup de vies ont été brisées à cause de ce manque de différence entre Eros, Philéo et Agapé. Plusieurs. Et j'ai dit, alors, tu viens à l'église, tu es venu seul. Tu as fait. Ce n'est pas une mauvaise chose de faire des connaissances. Mais un autre jour, si telle personne avec qui tu es lié par Philéo n'est plus d'accord avec telle ou telle situation, et si la personne quitte l'église, et sans vous rendre compte, vous aussi, vous n'avez pas envie d'aller à l'église. Ça vous est jamais arrivé? Soyez honnête. Ça vous est jamais arrivé? Si. Parce que comme elle ou lui ne va pas à cause de son problème, vous vous sentez aussi mal à l'aise d'y aller. Vous savez qu'est-ce qui vous influence? C'est Philéo, c'est pas Agapé. Et beaucoup de gens ont pris de telles décisions sans qu'eux-mêmes soient convaincus que Dieu leur a dit. Et maintenant, la Bible nous explique que quand cette pression vient, c'est pour amener tout le monde. Ok? Et au verset 12, et parce que l'iniquité sera accrue, ce sera accru, l'amour du plus grand homme fera quoi? Il va refroidir l'amour, pas les dons spirituels. L'amour, parce qu'il sait que si l'amour se refroidit, lui il peut faire son œuvre. L'amour, si l'amour se refroidit, c'est comme si de l'eau qui se répand quelque part. Mais mettez un peu de pression, mettons de la glace. Qu'est-ce que l'eau va faire? Elle va se glacer. L'eau ne va plus se répandre. Quand l'amour se refroidit, c'est fini. Quand vous êtes blessé, vous savez, quand quelqu'un vous blesse, est-ce que vous allez encore vous approcher de la personne? C'est comme ça que l'amour commence à se refroidir. Quand vous entendez une parole dite à propos, l'amour commence à se refroidir. Qui commence à comprendre? Il va toucher vos émotions pour refroidir l'amour. Mais maintenant, vous devez aller au-delà des émotions pour ne pas laisser l'amour se refroidir. Ce n'est pas ce que je sens qui doit me pousser à faire ce que Dieu m'a dit. C'est ce qu'il m'a dit en dépit de ce que je sens. Et il dit maintenant verset 13. Mais il a dit quoi? Ah, j'aime ça. Ceux qui persévèrent. Ceux qui persévèrent. C'est. Il s'adresse à qui? Il s'adresse à qui? Vous pouvez être plusieurs, mais Dieu sait que plusieurs vont succomber. Il dit, mais vous devez vous faire la différence. Vous devez faire la part des choses. Vous. Il n'a pas dit ceux qui persévèrent, c'est lui. Là, la responsabilité, tout le monde va dans la pression. Mais quand il faut s'en sortir, la responsabilité t'incombe. Ce n'est pas tout le monde. Voilà pourquoi il dit, plusieurs sont appelés, mais peu sont élus. Il dit, beaucoup prennent là, les chemins larges. Il y en a peu qui prennent le chemin étroit. Il dit, les royaumes de ce sont des violents qui s'en emparent. tu dois faire la différence, tu dois être celui. Il dit, comme l'amour va se refroidir, plusieurs vont succomber. Mais il dit, mais celui qui va persévérer sera comment? Ah, j'ai toujours été interpellé dans ces versets. On va essayer d'expliquer ça dans les jours qui viennent. Celui qui persévérera sera comment? Ah, donc on n'est pas encore sauvé alors. La Bible est complexe, hein? Moi, quand j'ai accepté Christ, on m'a dit, crois Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. C'est ce que la Bible dit. On m'a dit, le jour où j'ai accepté Jésus, j'ai été sauvé. Je suis sauvé spirituellement. C'est ce que je dis quoi? Si je meurs, je vais au ciel. Mais sauvé là, dont la Bible parle, sauvé, quand vous lisez dans le grec, il ne s'agit pas de sauver par rapport à aller au ciel. Parle, je vais vous le montrer à la fin. Parle de ce qu'on appelle salut. Pourquoi beaucoup de gens viennent à l'église? Ils ont reçu Christ. Mais il y a toujours le mari de nuit ou la femme de nuit d'Orlis, comme on dit, c'est bien ça? Ou la personne est toujours malade. Ou la personne fait des cauchemars. Mais Jésus est dans sa vie. Cette personne-là, s'il meurt, cette personne ira au ciel ou pas? Mais la personne a un démon. Alors, ça va peut-être vous choquer. Quelqu'un qui a accepté Jésus, qui continue à se saouler ou continue à fumer, ira au ciel ou pas? Sabine, oui ou non? Tu sais pas? Quelle confusion! Moi, on m'avait dit, quelqu'un qui a accepté Christ, qui continue à fumer ou à boire, n'ira pas au royaume, n'ira pas au ciel. C'est ce qu'on m'a dit, mais ce n'est pas ce qui est écrit. Paul a dit, ils n'hériteront jamais le royaume des cieux. Hériter le royaume des cieux, aller au ciel, c'est des choses différentes. Je vais enseigner ça. Ce n'est pas écrit, ils n'iront pas au ciel. Ils n'hériteront jamais le royaume des cieux. Et ceux qui ont suivi l'enseignement sur le royaume des cieux ont compris. Et on nous a tellement dit des choses qui ne sont pas dans la Bible. La nouvelle naissance, elle ne vient pas parce qu'on fait un effort, parce qu'on accepte Jésus, on est né de nouveau. C'est un exemple. Je vais essayer d'aider certaines personnes. Sabine, tu as des enfants? Ok. Mais est-ce que tu as dit à tes enfants, bon, je vous fais naître, c'est quand vous allez faire de bonnes choses, qu'à ce moment-là, vous allez me donner des garanties que vous êtes des Camoises? C'est ce que tu leur as dit? Ils ont été appelés Camoises ou considérés Camoises le jour où ils sont nés. Est-ce que tes enfants font tout ce qu'ils te demandent, tout ce que tu leur demandes? Ce n'est pas parce qu'ils ne le font pas qu'ils sont plus Camoises. Ils ne sont pas Camoises par ce qu'ils font. Ils sont Camoises par ce qu'ils sont. Tu as compris? Qui a compris? Vos enfants ne sont pas vos enfants par rapport à ce qu'ils font. Vos enfants sont vos enfants par rapport à ce qu'ils sont nés de vous. Qu'ils fassent pas ce que vous leur dites, ils ne changeront, puis ils sont toujours vos. Nous ne sommes pas enfants de Dieu parce que nous faisons de bonnes choses. Voilà pourquoi nous serons surpris ces jours-là de voir un voisin, une voisine qui allait dans une église catholique être ton voisin ou ta voisine au ciel. Comment tu es venu dans une église? Oui, je suis dans une église catholique, mais j'ai accepté Jésus. Ce n'est pas l'église catholique ou l'église évangélique. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici qui n'iront pas au ciel. Le fait d'aller au ciel, ce n'est pas être évangélique, baptiste, pentecôtiste, tous les istes et les hic que vous voulez. Le fait d'aller au ciel, c'est de dire, Jésus, viens dans mon cœur. Mais maintenant, le reste, maintenant, ça, c'est la différence où il y a maintenant la différence entre nouvelle naissance et salut, c'est plus que la nouvelle naissance. On va l'expliquer. Donc, il dit, celui qui persévérera sera. On va voir salut à la fin, ok? Vous voulez bien? Sera sauvé, mais celui qui ne persévérera pas, celui qui l'a fait sera sauvé. Donc on voit que le diable attaque l'amour pour nous permettre de pouvoir entrer dans ce qu'on appelle salut. La nouvelle naissance nous fait devenir enfant de Dieu. Mais le salut nous fait maintenant vivre ou expérimenter tout ce que Dieu a prévu pour nous. Le salut nous amène dans la dimension de vivre tout ce que Dieu a dans son plan pour nous. Donc maintenant, nous comprenons que nous devons maintenant, le diable attaque l'amour. On a dit que l'amour est le fondement, ce qu'on a lu dans Matthieu chapitre 22, à partir de quel verset? Vous avez bonne mémoire? 37. Alors, on a vu que l'amour, maintenant, est conditionné et le fondement. L'amour n'est pas une loi. L'amour, c'est un commandement. On a vu la différence entre commandement et loi. OK, c'est le fondement même. Aujourd'hui, nous allons voir mettre en première place les choses ou mettre premièrement les choses à leur place. Nous allons essayer de mettre les choses à leur place. Par rapport à tout ce que nous avons parlé dimanche, nous allons essayer de mettre les choses à leur place. Parce que quand on confond le place de chaque chose, c'est à ce moment-là qu'on rentre dans la confusion. On ne manifeste pas profondément ce que Dieu veut que nous puissions manifester. Est-ce que le fait de ne pas manifester l'amour peut-il m'empêcher de recevoir les résultats auprès de Dieu? Satan pourra-t-il affaiblir ma foi en attaquant ma capacité d'aimer? Pourra-t-il être considéré comme un menteur en disant que tu aimes? Lorsque tu n'aimes pas les autres, ce sont des questions. Peux-tu empêcher les bénédictions de Dieu de se manifester dans ta vie parce que vous êtes réticent à aimer? La réponse est oui. Si toutes ces questions-là dont je me suis posé et que vous vous trouvez dans cette situation, c'est oui. Le fait de ne pas manifester l'amour vous empêchera de recevoir de Dieu des bénédictions et des résultats. Le fait que Satan affaiblit ou attaque votre capacité d'aimer vous empêchera de pouvoir aller là où Dieu vous dit. Alors, ce que nous devons comprendre aujourd'hui, c'est de comprendre que l'amour n'est pas simplement une émotion. Ou l'amour agapé n'est pas une émotion. Parce que l'amour aussi est une émotion. Mais quel amour? Filial ou filéo? C'est une émotion. Mais l'amour de Dieu n'est pas une émotion. C'est plus qu'une émotion. C'est plutôt une force. Et quand il commence à opérer, il réarrange les choses et change les gens. Comme c'est une force, quand tu le laisses opérer en toi, ça commence à se répandre automatiquement. Les choses qui étaient dérangées dans ta vie seront réarrangées. Même si quelqu'un t'a fait du mal, tu vas réarranger la situation. Pas seulement réarranger la situation, tu vas changer les gens. À cause de l'amour de Dieu, c'est une force qui change les gens. Regardez bien. Les gens confondent l'amour de Dieu et l'amour philéo et agapé et eros. Une femme a commis l'adultère. C'est vrai que cette femme avait vraiment été dans cette situation. Mais quand vous lisez l'histoire de cette femme, vous vous rendez compte que c'était une prostituée. Donc c'était son job. Tout le monde savait ce qu'elle faisait. On n'avait pas besoin de mettre un piège pour l'attraper parce qu'une prostituée suffit d'aller chez elle. À une heure précise, on sait à peu près à quelle heure elle travaille. Ou des fois, elle travaille toute la journée. Si vous allez deux ou trois fois chez une prostituée, vous allez l'attraper en flagrant délit. Vous n'avez même pas besoin de mettre un piège pour l'attraper. Donc, c'est sa vie. Moi, je me suis posé la question. Comment que vous, tout le monde sait que c'est sa vie, vous dites qu'on l'a attrapé en flagrant délit d'adultère? Comment une prostituée peut être attrapée dans un flagrant d'adultère? Donc, elle n'est pas mariée. Hein? En réalité, ce n'est pas vraiment elle qui était dans l'adultère. Est-ce qu'elle est mariée?
C'est une autre personne qui a commis adultère avec elle. Et elle a commis l'impudicité. Vous comprenez la différence? Parce qu'elle n'est pas mariée. Comment une personne mariée peut commettre l'impudicité? Pardon, l'adultère qu'elle n'est pas mariée. Pour elle, sa situation, elle a commis l'impudicité. C'est une autre personne qui était mariée qui a commis adultère avec elle. Vous comprenez la différence? Ok. On excuse quelqu'un pour quelque chose qu'elle n'a pas. Elle a fait elle, la chose, mais la chose qui a été faite fait par elle, ce n'était pas l'adultère, c'était l'impudicité. Parce qu'elle n'est pas mariée. Si on l'avait accusée pour fornication, ok. Mais on l'a accusée, un, pour quelque chose qui n'a pas été faite par elle. Deuxièmement, vous avez rattrapé cette femme en flagrant délit d'adultère, mais à part l'adultère, ça ne se fait pas seul. Où s'est trouvé l'homme? Il a eu le temps de fuir. Et à cette époque-là, les ne s'habillaient pas comme nous. Alors, pour qu'un homme s'habille depuis 15 à 20 minutes, tout ce temps-là, vous ne l'avez pas attrapé. Et à cette époque, pour fuir, ce n'était pas facile parce que les habits dont ils mettaient, c'était facile d'attraper un homme. Mais ils sont avec la femme sans homme. Sans homme. Mais regardez maintenant l'attitude de Jésus. Regarde. Quand maintenant, n'ont pas l'amour de Dieu, Il vous accuse à tort et à travers, même pour les choses qui sont vraies. Mais cherchant ça pas simplement à vous aider, mais à vous. L'amour agapé n'enfonce pas. C'est une force. Comprenez bien. Même quand vous êtes dans l'amour agapé, vieux. Car Dieu a tant aimé le monde, il a fait quoi? Il a condamné. Il a un. L'amour agapé va pour faire sortir. Alléluia. Comme c'est une force, elle sait que aucune chose ne peut l'arrêter d'accomplir la volonté de Dieu. Donc ça réarrange et ça change les gens. Ça change pas seulement les gens, ça change aussi les circonstances. On amène quelqu'un à Jésus-Christ en lui accusant, la personne selon ce que la personne a compris. Jésus-Christ dit, ok, il n'y a pas de problème. Il élève sa tête, il dit, qui c'est qui n'a pas péché? La conscience de tout le monde a été acquise. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont lâché leur pierre. Parce que quand Jésus-Christ, comprenez bien, quand Jésus-Christ pose la question, qui c'est qui a péché? Il a baissé son visage. Et vous savez quoi? Il écrivait. Il écrivait sur terre. Moi, je me pose la question, pourquoi il écrivait? Dieu me dit, mais c'est simple. Parce qu'au moment où il écrivait, lui, il écrivait. Mais tout le monde maintenant regardait ce qu'il écrivait. Et dans ce qu'il écrivait, la question qui était posée, qui c'est qui n'a pas péché? Quand il regardait ce qu'il écrivait, tout le monde se voyait ses péchés. Non, il a dit non. Parce qu'il dit, qui c'est qui n'a pas? Il pouvait dire, moi je n'ai pas péché. Qui c'est qui n'a pas péché? Il n'a pas nommé leur péché. Il a baissé la tête, il a commencé à écrire. Donc tout le monde était curieux de savoir qu'est-ce qu'il écrivait. Quand ils ont regardé dans ce qu'il écrivait, tout le monde a vu ses péchés. Il dit, ah, ces gars-là connaissent que nous avons péché. Parce qu'il écrit ce que... Quand Jean regarde, lui, il écrit simplement deux ou trois chiffres ou trois lettres. Jean voit tous ses péchés depuis qu'il a... Donc Jean dit, Qui a compris? Qu'est-ce que l'amour de Dieu a fait? L'amour de Dieu regarde cette femme. Jésus-Christ sait que cette femme a commis un péché. Jésus-Christ sait que cette femme était prostituée. Jésus-Christ regarde la femme, ne dit pas, pourquoi tu as fait ça? Toi aussi, tu es une femme, il faut aller chercher un mari, laisse ces histoires. Regarde la femme avec amour et il lui pose la question. Personne ne t'a condamné. S'ils ne t'ont pas condamné, moi je ne peux pas le faire. Quand l'amour de Dieu se manifeste, quand vous la laissez activer, même quand, là où il y a des péchés, vous changez la vie de la personne. Et il dit, regardez l'amour de Dieu. Il dit, va, ne pêche plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme c'est une force, qu'est-ce que ça a fait? Ça a changé cette femme. Et cette femme est restée avec Jésus-Christ jusqu'à la fin de sa vie. Tu commences à comprendre? Ça a changé complètement sa vie. Toutes les circonstances ont changé. Elle est sortie de la prostitution pour devenir la fille du roi des rois, le seigneur des seigneurs. L'amour de Dieu, c'est une force. Ce n'est pas une émotion. Peu importe ce que les gens ont fait. Mais si nous les regardons avec les yeux de Dieu, ça change les gens. Pourquoi nos circonstances sont toujours les mêmes? Parce que nous ne manifestons pas Est-ce que quelqu'un me reçoit?